Dernier, j'ai eu la joie, dans le cadre des journées du patrimoine, de découvrir le musée Hector Berlioz, vous le connaissez sans doute tous, à la Côte-Saint-André, mais moi je n'avais jamais eu l'occasion d'aller le voir. Et cela m'a permis de redécouvrir la vie de ce génie de la musique qu'a été Hector Berlioz, de redécouvrir combien tout au long de sa vie, il a été en quête de reconnaissance de la France, afin que la France puisse reconnaître son génie artistique. Il a été reconnu, paradoxalement, en Angleterre et en Russie, mais en France, il a eu le sentiment, et je crois que c'est une réalité, de ne jamais être reconnu pour, encore une fois, le génie musical qu'il a été. Et on peut le lire dans les lettres qui sont dans ce musée, ces belles lettres qui sont conservées, où on voit son trouble et son regret, encore une fois, de n'avoir pas été reconnu dans son pays d'origine pour qui il était. Je crois que ce désir de reconnaissance, cette quête de reconnaissance, elle est au cœur de toute vie humaine, au cœur de chacune de nos vies. Cette quête d'être reconnu comme quelqu'un de particulier, cette quête d'être accepté, cette quête d'être aimé. Cette quête-là, oui, elle est au cœur de toute vie humaine et cette quête aussi, bien sûr, si l'on doit être accepté et aimé, d'être accepté et aimé par celui qui a fait toutes choses, par le Dieu de toutes choses, par le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais comment ? Comment recevoir la reconnaissance ? Comment être sûr d'être accepté et aimé par ce Dieu éternel qui est si grand, si puissant ? Il a peut-être beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de notre propre personne. Comment être sûr qu'il nous accueille comme ses enfants bien-aimés? Un début de réponse nous est donné dans le livre d'Ésaïe que Bertrand nous a relu, où il nous est demandé et où il nous est exhorté de nous approcher de Dieu pendant qu'il se fait proche. Dans la traduction qu'a lu Bertrand, c'est « maintenant qu'il est proche, pendant qu'il se fait proche ». Et j'entends cette exhortation ainsi, et certains théologiens d'ailleurs n'étaient pas d'accord avec cette traduction, mais pourtant je l'entends ainsi, ayant regardé le texte en hébreu, c'est que Dieu n'est peut-être pas toujours aussi proche que nous le voudrions dans nos vies. Scandale, alors, vous allez me dire. Pour ce Dieu qui, en Jésus-Christ, s'est approché du monde et s'est approché de chacun d'entre nous, oui, mais nous entendons aussi, et je l'entends dans des textes de l'Ancien Testament, que Dieu, quelquefois, se rend moins proche, et même que Dieu, que quelquefois, peut fermer le cœur de l'homme. N'a-t-il pas fermé le cœur du Pharaon alors que Moïse venait intercéder pour le peuple d'Israël afin que ce peuple puisse rentrer dans son pays? Dieu n'a-t-il pas fermé pendant quelques moments le cœur du roi Saül? Et puis, dans l'Évangile, ne voyons-nous pas ce Dieu de Jésus-Christ qui s'échappe au désir des hommes, au désir des foules, pour se retrouver dans des lieux déserts afin de retrouver un peu d'intimité avec le Père? Alors j'entends, même si cela peut nous troubler, même si cela me trouble, qu'il y a quelquefois des temps où Dieu se rend moins proche parce que telle est sa volonté, parce que telle est son désir, parce que telle est évidemment sa liberté, et qu'il y a aussi bien sûr des temps, des moments plus favorables où Dieu se rend proche de nous, où Dieu vient à notre rencontre pour nous appeler, pour nous consoler, pour nous dire comme ce maître de maison le fait à ses ouvriers, « Viens chez moi, j'ai besoin que tu travailles dans ma vigne et tu recevras un salaire juste. Tu recevras pour les ouvriers qui viennent en dernière heure, tu recevras ce qui est juste. » Vous voyez, j'aime bien cette idée que notre salut ne repose pas entre nos mains, mais d'abord entre les mains d'un Dieu qui invite, qui appelle. Notre salut est entre les mains de ce Dieu qui nous a choisis, qui nous a établis d'avance afin de porter du fruit. Je crois en ce Dieu dont la grâce est première, mais qui nous appelle, et la parabole nous le dit de manière très claire et très précise, qui nous appelle au travail, qui nous appelle à l'effort, qui nous appelle au service, au cœur de sa vigne, au cœur de sa création. Il y a là un paradoxe qu'avait formulé de manière très claire et lumineuse le grand théologien Dietrich Bonhoeffer, qui parlait d'une grâce qui coûte. Comment associer ces deux mots? La grâce est la grâce, mais en même temps, elle coûte. Et je crois que c'est profondément vrai. Dieu nous appelle par sa pure grâce dans son royaume, mais cette grâce nous appelle au service, à un service qui coûte, comme il a coûté à ses ouvriers appelés à travailler dans la vigne, sous le soleil, pendant des heures entières. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, tel est la maxime de la fin de cette parabole. Comment comprendre ces paroles? Je les comprends de trois manières différentes. D'abord, il faut replacer cette maxime, cette sentence, dans le cadre du conflit entre le christianisme et le judaïsme. Si on en croit les Écritures, et elles disent la vérité, les premiers à avoir été appelés, c'est bien le peuple d'Israël. Ce sont les premiers hommes auxquels Dieu a décidé de se révéler, auxquels Dieu a donné sa loi, auquel il a dit « Vous êtes mon peuple bien-aimé », auquel il a accordé sa grâce et sa protection. Et il est juste et légitime, je le crois au nom des Écritures, au nom de l'Ancien Testament, que le peuple d'Israël se perçoive comme le premier peuple élu. Mais, évidemment, tout change avec la venue de Jésus-Christ, par lequel l'élection s'ouvre au monde entier, s'ouvre aux derniers appelés, qui, même s'ils sont les derniers appelés, reçoivent la même grâce et le même amour. Bien sûr, cela, le peuple juif a du mal à le comprendre. Et une manière donc de comprendre cette phrase, « Les premiers seront les derniers », c'est que les premiers à avoir été élus, le peuple d'Israël, seront peut-être les derniers à reconnaître Jésus le Christ pour qui il est, pour qui il est véritablement, ce qu'ont reconnu les chrétiens, mais qu'ils le feront, en tout cas je l'entends de manière positive comme cela, qu'ils le feront un jour, fût-ce dans le royaume de Dieu, à la fin des temps. Deuxième manière d'entendre cette maxime, les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers, une manière toute protestante, et c'est bien légitime, puisque nous fêtons les 500 ans du protestantisme cette année. C'est de dire qu'avec le christianisme, qu'avec la venue de Jésus-Christ, la logique est renversée. Jusqu'à maintenant, on était dans l'économie du donnant-donnant. Et le peuple d'Israël, d'une certaine manière aussi, était dans cette économie du donnant-donnant. Dieu disait à son peuple, « Si vous obéissez à mes commandements, si vous m'êtes fidèles, alors je serai pour vous un Dieu protecteur, alors je vous donnerai richesse, alors je vous donnerai prospérité, donnant, donnant. Par contre, si vous adorez d'autres dieux, si vous oubliez mes commandements, alors le malheur s'abattra sur vous. Donnant, donnant. » En Jésus-Christ, tout est bouleversé, nous l'entendons dans l'Épître aux Éphésiens. Il n'est plus question de donnant-donnant, mais d'un Dieu qui, de manière unilatérale, sans attendre rien en retour, décide de se donner en Jésus-Christ, décide de s'approcher, décide d'aimer, décide d'accueillir, décide de reconnaître, de manière, encore une fois, unilatérale. Latéral, un cadeau éminemment précieux à recevoir avec reconnaissance. Nous ne sommes plus dans le donnant-donnant, les derniers seront les premiers seront les derniers, tout est bouleversé au nom de la bonté de Dieu. Ce que nous entendons aussi dans cette parabole, puisque c'est la réponse que fait le propriétaire à ces ouvriers qui se plaignent, comment cela se fait-il? Nous avons travaillé 10 fois plus que ces ouvriers de la dernière heure. et tu leur donnes le même salaire, cela est profondément injuste. La réponse est cinglante. De quoi te mêles-tu? Pourquoi me reproches-tu d'être un maître de maison, un propriétaire qui soit bon? Croyons en un Dieu de bonté, mais en un Dieu dont la justice dépasse la manière dont nous pouvons penser l'injustice humaine. Ce que nous dit aussi le livre d'Ésaïe que nous avons relu ce matin, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel, elles sont aussi séparées que le ciel est séparé de la terre. » Et alors que je méditais cette parabole, et que je méditais ce texte d'Ésaïe, j'étais dans mon bureau et je voyais tous mes livres de théologie, d'études bibliques, et je me disais, si les pensées de Dieu sont bien plus grandes que mes pensées, à quoi bon avoir fait tant de théologie, d'études bibliques, puisque finalement, tout est question d'esprit et de grâce. Mais peut-être faut-il, vous savez, amasser des connaissances, amasser des lectures théologiques pour pouvoir s'en débarrasser et pour pouvoir aller à la plus grande des simplicités. C'est peut-être que pour cela que Jésus dit que le royaume des cieux ne pourra être reçu que par un petit enfant. Cela est semblable, c'est une métaphore, vous savez, à un grand musicien, puisque j'ai convoqué Hector Berlioz, qui étudie toute sa vie sa musique, écrit des partitions très compliquées, et finalement, qu'est-ce qu'on va recevoir de lui? Qu'est-ce qui va rester dans l'éternité? Eh bien, une mélodie tout à fait simple, peut-être quatre phrases mélodiques, qui paraissent très simples et qui pourtant sont le fruit d'une longue méditation, d'une longue étude de la musique. Peut-être en est-il aussi comme cela de la foi. Je vous dis ça et en même temps, c'est la réalité que quelquefois il faut tout un chemin de vie pour rencontrer Dieu, pour vraiment être sûr de sa grâce et de son amour, tout un chemin de vie, d'études, de réflexion. Et puis quelquefois cela est donné comme cela d'avance, cela tombe sur vous, cela tombe sur certains alors qu'ils sont même encore enfants. Les chemins du Seigneur sont impénétrables, nos pensées ne sont pas ses pensées. Cela peut paraître profondément injuste. Comment cela se fait-il qu'à certains cela soit donné tout de suite et qu'à d'autres cela mette des années, quelquefois des dizaines d'années? Peu importe finalement. L'essentiel est de retenir que, au final, comme dans la parabole, tous sont appelés, tous sont invités et tous rejoignent le royaume de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Pourtant, il y a une pensée que nous devons faire nôtre ce matin, c'est que nous avons l'assurance d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, nous aime, nous accueille tel que nous sommes. Et cela est profondément précieux. Et si nous sommes parmi les ouvriers de la première heure, si nous sommes parmi ces gens qui sommes engagés dans l'Église depuis un grand nombre de temps, nous pouvons nous réjouir d'avoir pu accueillir cette parole qui est profondément libératrice. Ce savoir aimé, ce savoir accueilli par le Père de toutes choses, c'est profondément libérateur, notamment libérateur dans nos rapports humains. Et si nous faisons partie, si nous sommes de ces ouvriers de la dernière heure, alors nous devons être dans la reconnaissance pour tous ceux qui ont reçu l'Évangile avant nous, qui ont préparé le chemin et qui peuvent nous accueillir dans la maison du Père. Amen.